Bienvenue à Partenaires en affaires, une série en balado-diffusion qui offre des conseils, aborde des dossiers chauds et traite de perspectives économiques susceptibles d'intéresser les petites et moyennes entreprises. Je m'appelle Pierre Duhamel et je suis commentateur et blogueur à la chaîne Argent du groupe TVA. Cette diffusion est présentée en collaboration avec la Banque de Montréal. Quand on interroge les dirigeants d'entreprise sur les grands défis qu'ils doivent affronter au cours des prochaines années, une majorité d'entre eux répondent « le recrutement d'employés compétents ». Les ressources humaines et leur gestion est devenu un enjeu stratégique majeur pour toutes les entreprises, en particulier les PME. Pour nous en parler, je reçois Florent Francoeur, président-directeur général depuis 1992 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées et des conseillers en relations industrielles, une organisation qui regroupe 8000 professionnels en gestion des ressources humaines au Québec. Florent, les dirigeants d'entreprise ont-ils encore tendance à diminuer l'importance des ressources humaines au sein de l'organisation? Il me semble qu'ils en parlent dans tous leurs discours, mais que les ressources humaines sont encore moins considérées que d'autres fonctions comme les ventes et la finance. Est-ce que c'est vrai?
Je dirais que non, dans le sens que ça a déjà été vrai qu'on exprimait les sacro-saintes paroles de dire que les ressources humaines étaient la valeur la plus importante, mais que dans les faits, il y avait rien qui ne se concrétisait. Aujourd'hui, de plus en plus, je dirais que c'est le cas. Les entreprises se rendent compte, notamment à cause des pénuries appréhendées de main-d'œuvre, mais aussi des difficultés de gestion des ressources humaines, que la ressource humaine maintenant dans l'organisation, c'est vraiment la valeur fondamentale.
Il y a une conjoncture très particulière à l'heure actuelle avec le vieillissement de la population, beaucoup de baby-boomers qui vont prendre leur retraite prochainement et des entreprises qui peinent à recruter. Comment ça se manifeste?
Mais en fait, je dirais d'abord pourquoi. Hein? Alors, on peut le noter, le taux québécois d'activité est déjà parmi les plus élevés du monde. Le chômage est en baisse, on le voit. La main-d'œuvre est en renouvellement. Simplement mentionner qu'il y a près d'1 million de Québécois qui vont partir à la retraite dans les 5-6 prochaines années. Et globalement, on pourrait dire que l'économie va bien. Ça se traduit par des pénuries. On pourrait parler plutôt de difficultés à recruter actuellement. Et dans le fond, lorsqu'on regarde les difficultés, là, notamment, on a de la difficulté à attirer, on a de la difficulté à garder nos employés et bien sûr à les mobiliser.
Premier défi, c'est donc un défi du recrutement.
C'est un défi, je dirais, plus large que de recruter, c'est un défi d'attirer la clientèle. Parce qu'avant, lorsqu'on parlait de recrutement, je dirais que c'était presque relativement facile. On annonçait une offre d'emploi dans un journal, un poste affiché, on recevait 200, 500, 1000 CV. On faisait une sélection qui était plus ou moins mécanique, là, le plus beau CV, et on sélectionnait une personne. Aujourd'hui, grande surprise, pour certains postes qu'on affiche, on n'a absolument aucune réponse. Et quand je dis aucune réponse, là, c'est zéro. Alors là, les gens se rendent compte qu'il faut faire beaucoup plus que recruter, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, je dirais, attirer des candidats. Alors, l'entreprise doit se faire belle, ce qui veut dire qu'elle doit d'abord, étant donné qu'elle sait que lors des entrevues maintenant, la personne qui va être en recherche d'emploi va poser des questions à l'entreprise, et cette personne-là sait qu'elle a maintenant, je dirais, l'avantage. Alors, elle va poser la question à l'entreprise sur quel genre de poste, qu'est-ce qui m'attend en termes de développement de carrière, qu'est-ce qui est offert en termes de conciliation travail-vie personnelle. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les entreprises doivent d'abord aller au préalable regarder qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, en quoi ils se différencient de l'entreprise voisine pour pouvoir attirer cette main-d'œuvre-là. Et une fois qu'on l'a attirée, ben là, pour pouvoir, dans le fond, en bout de piste, pouvoir faire une offre d'emploi formelle à un futur employé.
Vous parlez de la conciliation travail-famille. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre les nouvelles générations d'employés et les gens qui sont à la tête des entreprises qui appartiennent à cette grande cohorte des baby-boomers?
Ben en fait, il y a plusieurs différences, mais il faut quand même situer qu'actuellement, vous avez raison, quand vous parlez d'une clientèle de boomers, alors on parle de gens qui normalement sont à, je dirais, mi-carrière, fin de carrière. Alors évidemment, les impacts, souvent, leurs enfants sont élevés. Alors ils ont moins besoin, je dirais, de concilier travail et famille. Ils vont pouvoir plutôt vouloir concilier travail-vie. Souvent même, ce n'est même plus, je dirais, une question d'enfants, c'est souvent de gérer leurs propres parents. Alors que le jeune, lui, qui arrive sur le marché du travail, travail, c'est souvent la génération des enfants rois. Alors, arrive en posant des exigences à ce niveau-là. Il sait, dans le fond, qu'il va vouloir, parce qu'on l'a vérifié dans plusieurs sondages, le jeune ou la personne ou le baby boomer, je dirais qu'il soit Y, qu'il soit X. Alors, ces deux générations-là, ce sont des gens qui veulent quand même donner le meilleur d'eux-mêmes pour une organisation, mais qui, en même temps, ne sont pas prêts à faire de sacrifices sur, par exemple, leur conciliation travail-vie, sans dire que ça prend toute la place. C'est quand même un élément qui est regardé parmi d'autres lorsqu'ils choisissent une entreprise.
Donc, ça pose tout un défi aux entreprises.
Ça pose toute entreprise, tout un défi. Et c'est pour ça que je parlais que l'entreprise doit maintenant se faire belle si elle veut pouvoir attirer des candidats. Et c'est pas pour rien lorsqu'on regarde, je dirais, la vague de concours et autre chose qui permettent notamment à l'entreprise de pouvoir se distinguer par rapport à sa voisine. En fait, ça vise deux éléments. Alors, en disant que je suis la troisième, quatrième ou cinquième meilleur employeur au Québec ou le cinquième employeur de choix au Canada. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que si vous êtes à la recherche d'une carrière, je dirais, passionnante, vous devriez regarder chez nous, premier élément. Deuxième élément, dans la stratégie de fidéliser l'employé, parce que ça, c'est aussi un élément qui est important. Alors, dans la stratégie de fidéliser, bien, ça veut dire que l'herbe est probablement pas plus verte chez le voisin. Alors, tu aurais peut-être intérêt, comme on est un employeur de choix, alors tu aurais peut-être intérêt à rester chez nous parce qu'on fait vraiment notre possible pour te garder.
Bon, présumons qu'on a attiré des gens, présumons qu'on a plein de beaux CV très intéressants. Quels sont les principaux critères pour bien recruter?
Bon, alors aujourd'hui, l'élément, je dirais, fondamental, alors, l'élément technique est bien sûr à la base. Ce qu'on va vouloir vérifier dans les entrevues, c'est est-ce que la personne est en mesure de faire la chose qu'on lui demande. Mais au-delà de ça, on va beaucoup plus maintenant au niveau, avant on était dans le savoir-faire et maintenant on est plutôt dans le savoir-être. C'est-à-dire que les gens qui arrivent sur le marché du travail, quel que soit le niveau, alors ça implique maintenant du travail d'équipe, ça implique de pouvoir communiquer efficacement avec ses collègues, ça implique de pouvoir exprimer des besoins, ça implique de pouvoir répondre à des besoins. Alors, je dirais, par exemple, l'élément communication, mais vraiment, tout ce qui concerne le savoir-être prend beaucoup plus d'importance. C'est ce qu'on cherche beaucoup plus à mesurer maintenant dans les entrevues. Comment une personne va se comporter dans une situation? Comment une personne va exprimer ses besoins? Est-ce que cette personne-là est capable de travailler en équipe? Est-ce que cette personne-là est capable de gérer plusieurs projets en même temps?
C'est souvent plus difficile pour les PME de recruter les meilleurs candidats. Quels arguments peuvent-ils utiliser pour convaincre de bons éléments de se joindre à leur organisation?
En fait, c'est la différenciation maintenant. C'est-à-dire que pour une petite entreprise, la première question à se poser, c'est de dire qu'est-ce que j'ai de particulier. Alors, si je suis dans une région, si je suis dans une petite entreprise, comment je me distingue encore une fois de mes voisins et bien sûr de la grande entreprise. Alors, une petite entreprise, souvent, on va pouvoir dire probablement un petit peu plus d'autonomie. On va pouvoir dire probablement des contacts plus directs avec la haute direction de l'entreprise. Ça veut dire de pouvoir transmettre des idées. Alors, vraiment, la petite entreprise doit faire un inventaire, dans le fond, de ses points forts et pouvoir les communiquer ensuite aux personnes qu'elle voudrait attirer et garder dans l'organisation.
Est-ce que c'est difficile, plus difficile à l'heure actuelle pour les PME?
C'est très difficile pour la PME, notamment parce que, je dirais souvent, il y a la question salaire qui, sans être, il faut le rappeler, le salaire n'est pas, je dirais, l'élément premier qui est utilisé par les personnes en recherche d'emploi maintenant pour choisir une entreprise. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont utilisés, mais le salaire, évidemment, est un facteur de différenciation. Souvent, la petite entreprise a plus de difficultés à compétitionner avec la grande. Par ailleurs, elle a aussi de très grands avantages, un peu comme je te parlais de flexibilité, de souvent les défis peuvent être plus grands, les défis peuvent être plus intéressants. Alors, il s'agit de se démarquer.
Comment qu'on peut conserver, fidéliser nos employés? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu avais un ou deux conseils à donner?
Mais d'abord, la ligne de fond, c'est la communication. Alors, pour pouvoir, dans le fond, conserver nos employés, ce qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir, dans le fond, s'assurer que les messages de la haute direction vers la base et de la base vers la haute direction puissent être, que toute la communication se fasse bien, qu'on puisse aussi qu'on puisse aussi, j'irais trouver des occasions pour pouvoir souligner la contribution des employés. On le fait malheureusement pas assez. Et quand je dis pas assez, là, je parle pas nécessairement d'argent. Je pense par exemple à pouvoir simplement dire merci, s'il vous plaît. Des petits gestes très simples, mais qui veulent dire, dans le fond, à l'employé, tu es important et à ta façon, tu contribues au développement de notre organisation. Alors, régler les problèmes. J'irais 3 travailleurs sur 4 nous disent qu'ils sont témoins de situations difficiles au travail et que le patron est au courant qu'il ne veut pas le régler. Alors, c'est de toute façon, je dirais probablement les 3 éléments clés pour pouvoir mobiliser les personnes.
Écoute, moi, j'en ai déjà retenu une. Je te dis merci beaucoup, Florent Francœur, président-directeur général de l'Ordre des CHRA et des CREA du Québec, de nous avoir donné cette interview.
Ça fait plaisir.
Merci à vous d'avoir écouté cet entretien de la série « Partenaires en affaires ». Vous pouvez télécharger cette série en balado-diffusion sur les sites bmo.com et argent.canoë.ca, le site de la chaîne Argent. Ici Pierre Duhamel, commentateur et blogueur à la chaîne Argent, qui vous souhaite bon succès.